Gloire à Dieu, nous continuons notre série sur l'Ecclésiaste, Bérien l'explorateur, et nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, un livre rempli de réflexions. Aujourd'hui, il y en a tellement que nous avons préféré résumer en disant réflexion profonde et de sagesse, et diverses. Voilà, parce que ce chapitre 7 est rempli d'enseignements. Voilà, nous allons commencer Ecclésiaste chapitre 7.
Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur.
Voilà. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. La réputation, c'est ce que les gens pensent de nous. Et ça crée donc une description de nous dans leur cœur. Voilà. C'est ça la réputation, c'est ce que les gens pensent de nous, notre description dans les cœurs des autres. Et on peut mettre un bon parfum qui va impressionner ou bien être physiquement d'apparence très très belle, mais ce n'est pas ça qui convainc les cœurs. La réputation, c'est ce que le cœur pense. Atteindre un cœur, c'est beaucoup plus difficile qu'atteindre le nez ou les yeux. Voilà. Et c'est très important d'avoir une attitude de constance dans l'amour, la simplicité, la vérité, car c'est ainsi qu'on peut toucher un cœur. Donc une bonne réputation, ça se construit ainsi, parce qu'on a été constant dans la vérité, l'amour, la simplicité. Cette constance-là fait que pour les gens, nous sommes ainsi. Ils nous décrivent ainsi. Mais ça demande de la constance, de la persévérance dans cela pour bâtir cette réputation-là. Alors que le parfum, ben, on le met tout de suite et puis tout de suite, ça rayonne, ça produit de l'effet. Voilà. Mais ça passe aussi vite. La réalité, c'est la suite. Impressionner pendant une heure, lors d'une fête, ça ne dure pas. Ce qui dure, c'est la bonne réputation. Quelque chose qui est construit dans le temps et ça tient. Parfois, face aux événements difficiles, ça tient quand même. C'est très important de vivre dans une constance dans la vérité, constamment dans la vérité, dans l'amour, dans la simplicité. C'est comme ça que, involontairement et indirectement, nous touchons les cœurs des personnes, nous construisons une image de nous dans leur cœur. Et ça tiendra longtemps et ça servira dans les temps d'intempéries, dans les temps difficiles. Voilà. Certains, les humains, préfère impressionner, marquer un instant, mais ça passe. Voilà. Et nous avons vu que certaines personnes qui avaient une mauvaise réputation, parfois elles ont tenté de s'acquérir une bonne réputation par quelques faits glorieux ou bien quelques faits pour plaire aux gens, mais ça ne tient pas. Les gens vont être contents un instant, mais la réputation reste dans le cœur et pour changer les choses, il faut vraiment un changement dans la durée, dans le comportement. Et puis, mieux vaut le jour et le jour, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que mourir d'une manière absolue, c'est mieux que naître? Non, ce n'est pas ce que le bien-aimé veut dire, parce que tout est lié, quand il dit une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un, pendant sa vie, a eu un bon comportement, il a bâti les choses, il a fait les choses bien, ça crée des constructions dans les cœurs et des constructions dans l'humanité. Et quand une telle personne meurt, c'est un couronnement. C'est un couronnement. Alors que quand nous naissons, la bagarre commence. La difficulté, le combat commence. Alors que quand nous mourons, après avoir eu une bonne réputation, après avoir fait bien les choses, c'est un couronnement. La mort, en ce moment-là, devient un couronnement. Et en ce moment-là, la mort nous fait échapper au combat qui allait suivre. La mort devient une délivrance et un couronnement. Parce que nous connaissons, par exemple, l'histoire d'Ézéchias. Il a eu une bonne attitude avec Dieu. Il a marché avec le Seigneur dans la vérité. Et il a fait des exploits à cause de cela. Et il a eu une très bonne réputation. Et Dieu a voulu couronner ça par la mort en disant, écoute, informe ta famille, dis-leur que tu vas mourir bientôt, prépare la succession. Ézéchias a dit, non, au moment où j'ai bâti la paix autour de moi, j'ai construit le royaume comme il faut, c'est à ce moment-là que toi tu veux me prendre. C'est ça, bien-aimé, les gens ne comprennent pas qu'il y a une suite. Donc la mort en ce moment-là, c'est un couronnement de tout ce que tu as fait. Et il y a une suite où ce couronnement-là va agir, c'est au ciel. 1 Corinthiens 15:58 dit « Dieu ne prend pas en vain tout ce qu'on fait pour lui ». Et Apocalypse 14:13 dit que les œuvres des saints les suivront. Et donc, quand Dieu veut l'enlever, il résiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a laissé vivre encore 15 ans. Et pendant ces 15 ans, il a fait beaucoup de bêtises. Et il a ruiné tout ce qu'il avait bâti avant que Dieu ne lui propose de le récupérer. Vous voyez, bien-aimé, c'est ça l'idée de ce passage. La mort, quand ça arrive à quelqu'un qui a fait les choses, qui a eu une bonne réputation, c'est un couronnement, c'est une délivrance, parce que la suite, qui connaît la suite? Seul Dieu. Et donc Dieu, quand il veut enlever Ézéchias, il sent bien que la suite risque d'être négative. Vaut mieux qu'il l'enlève au temps où il est en honneur et dans la gloire, dans la vérité, pour que cela se poursuive en éternité. Oui, bien aimé. Et puis, comme je le redis encore, la mort, c'est la fin des combats aussi. Hein. C'est la fin de la souffrance, c'est la fin des difficultés. Voilà, mais c'est davantage un couronnement pour celui qui a bien travaillé avec le Seigneur. Donc, c'est cela. Et la naissance, par contre, ben, c'est le début des luttes, le début des combats. C'est dans ce sens-là que la mort est préférable. D'ailleurs, Paul l'a dit, la mort m'est un gain. Que finalement la mort, ça nous amène au ciel, ça nous délivre de combats d'ici-bas. Ici-bas, nous souffrons réellement, c'est une réalité. Voilà. Nous continuons, et il est écrit aussi, « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. » Effectivement, donc quand nous sommes dans un lieu de deuil, nous réfléchissons à notre existence. Nous réfléchissons à la suite. Et nous sommes aussi dans des dispositions d'amour, parce que nous sommes venus soutenir quelqu'un, nous sommes venus fortifier quelqu'un. Alors que, bien aimé, dans des maisons de festin, souvent, c'est des luttes par rapport à qui s'est habillé comme ceci, comme cela. C'est des luttes. C'est des luttes par rapport à comment ça va être cette fête, par rapport à celle que avait fait un tel cousin, une telle cousine. Voilà. Donc, dans les moments de festin, c'est la légèreté souvent. Les gens ne pensent pas au lendemain, ils se lâchent, ils s'enivrent. Il y a des bagarres. Les gens ne réfléchissent plus beaucoup. Alors que dans les moments de deuil, nous nous disons, mais tiens, cet homme était avec nous il y a 5 jours. Et comment il est parti? Ah, vraiment, nous sommes rien. Et même notre orgueil en prend un coup et ça peut servir pour la repentance. Nous réfléchissons à notre avenir. Nous réfléchissons à l'existence, à Dieu. Et cela nous est que salutaire puisque ça nous permet de voir notre état de faiblesse et de nous repentir. C'est cela que c'est intéressant quand il y a la mort. C'est le message de Dieu, la mort, qui nous dit, ben voilà, il y a le péché sur terre, c'est pourquoi vous mourrez. Qui nous dit, ben voilà, il n'y a pas de salaire sur terre, ça finit par la mort à cause du péché. Venez à moi. Oui, question.
Question Internet. Quand une personne sent la mort arriver, il faut juste qu'il accepte et ne pas prier pour guérir ou chasser l'esprit de mort.
Ça dépend. Nous l'avions dit précédemment que lorsque nous sentons que c'est une forme d'attaque de l'ennemi, nous sentons en nous qu'il y a comme un avenir avec Dieu, nous devons viser toujours cet avenir avec Dieu et résister à la mort. Mais lorsque nous sommes certains, comme Ézéchias, que c'est Dieu qui dit que tu pars, là, nous devons même être contents de mourir. Voilà. Et par exemple, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul savaient qu'ils allaient mourir et ils acceptaient ça parce qu'ils le disent, les deux. Donc Paul dit, je suis arrivé à la fin, c'est le temps de libation pour moi, donc le temps où il va clôturer son sacrifice de vie par la libation. La libation, c'était le fait qu'on versait un liquide pour clôturer un sacrifice. Eh bien, donc, sa mort allait clôturer le sacrifice de toute sa vie. Et il n'en était pas attristé, ni Pierre. Voilà. Il faut du discernement quand nous sentons bien que voilà, le Saint-Esprit nous montre que ça vient de Dieu, nous devons céder. Et si nous voyons ça plus comme une attaque, nous devons résister. Nous continuons, verset 3.
Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie.
Voilà, nous revenons à la même réflexion. Mieux vaut le chagrin que le rire. Mais bon, vous allez me dire, quand même, nous n'allons pas souhaiter la tristesse, nous n'allons pas souhaiter la souffrance. Non, ça veut dire que, tout simplement, que l'action du chagrin est beaucoup plus bénéfique que l'action du rire. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que nous devions souhaiter le chagrin. Ça veut dire tout simplement que quand il y a le chagrin, la suite est beaucoup plus productive que quand il y a le rire. Quand il y a le rire, il y a souvent la légèreté. Quand il y a le rire, il y a souvent la négligence. Quand il y a le rire, il y a souvent l'oubli. Et parfois, il y a des comportements de dérèglement dans l'atmosphère de joie, de rire. Voilà, il y a souvent ça. Mais quand il y a le chagrin, il y a la réflexion. Déjà, le fait de venir soutenir quelqu'un qui est triste, c'est déjà un élan d'amour, un élan de solidarité. Alors, quand il y a le chagrin, il y a la réflexion. À qui peut nous sortir de ce chagrin? Bien, il y a Dieu. Nous allons prier Dieu. Voilà, le chagrin produit une suite beaucoup plus constructive que les joies et les rires. Sans dire que les joies et les rires sont mauvais, mais c'est juste que entre choisi, l'action des deux va plus du côté du chagrin pour la construction. Concernant la construction, la réflexion, la sagesse, c'est le temps de chagrin qui produit beaucoup cela, plutôt que le temps de joie et de rire qui produit souvent la distraction, la négligence et la légèreté. Voilà. Nous continuons, verset 5 plutôt.
Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage et laisse présent corrompt le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement.
Voilà, avant de continuer avec le verset 8, nous revenons un tout petit peu sur « Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant les encensés. J'ai dit nous revenons parce que nous en avons certainement parlé dans les études précédentes pour dire que souvent les gens préfèrent entendre des choses qui vont dans leur sens. Félicitations, tu as raison. Bien-aimé, c'est très très dangereux. C'est très dangereux de souhaiter entendre des félicitations, des encouragements, comme on dit aujourd'hui. Il faut encourager. Mais bien-aimé, quand quelqu'un est dans la vérité en elle-même est un encouragement, est une force. Voilà. D'accord, il faut encourager, mais ce n'est pas une raison pour ne pas accepter les paroles qui s'opposent à nous. Ou ne pas les entendre. Considérer à chaque fois que l'on te dit quelque chose qui est contraire à ta pensée, considérer cela comme une attaque. Il y a des gens qui voient les attaques partout. Dès que il y a une contradiction, c'est une attaque. Non. Tu vérifies avec Dieu. Si c'est faux, ben c'est faux. Mais en vérifiant avec Dieu, tu auras la valeur juste des choses. Et Dieu peut te dire, ben, ils avaient raison. Au moins, bien aimé, l'opposition nous rend vigilants sur nous-mêmes. La contradiction nous pousse à réfléchir. Les félicitations, non. Les félicitations nous poussent à l'exaltation de soi-même. Il faut, bien aimé, se dire cela. Au moins, comme disait Richard Rembrandt par rapport aux gens qui le critiquaient, alors qu'il prenait des risques pour amener les évangiles en contrebande dans les pays de l'Est, il disait, bon, ce n'est pas logique que des chrétiens me critiquent pour de telles choses, mais j'en tire profit en me disant qu'il n'y a que Jésus qui est parfait. Donc, quand les gens me critiquent, ce n'est que justice. Voilà. Ça me permet de me garder humble. Voilà. Donc, tout n'est pas attaque. Vaut mieux encore qu'un sage te réprimande. Voilà. Et tu gères ça avec Dieu, mais au moins ça te rend alerte, vigilant, humble. Voilà. Oui.
Question Internet. On a emmené la fête aujourd'hui dans la maison de deuil. En particulier en Afrique, le deuil est devenu une occasion de fête et d'insouciance. Que faire face à cela lorsque on est chrétien et concerné par le deuil dans ce contexte?
Eh bien, il faut être sec. Donc, c'est le moment de montrer que nous, on est différents. La Bible, nous sommes différents. La Bible n'encourage pas cela. Il y a environ 2 ans, moi, j'ai perdu mon père et... arrivé à minuit, je quittais les lieux. Je ne me laissais pas avoir avec les histoires de rester là jusqu'au matin à faire quoi. Les gens ne prient même pas. Ils écoutent des chants religieux, ils discutent, ils boivent, ils mangent. Non. Donc à minuit, moi, je quittais les lieux. Et dans la journée, je gardais la simplicité de fonctionnement. Voilà. C'est le moment de montrer les choses en différence. Et lorsque c'est quelque chose de familial et que nous avons une voix à dire, nous devons répéter aux membres de la famille que je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que ce verset ne tient plus la route, ne tient plus en Afrique parce que les deuils sont devenus beaucoup plus festifs que les fêtes mêmes. On commence même à mettre les affiches. Donc, au bout de la rue, on met la photo du défunt hein, comme une forme de séminaire, ou je ne sais pas, de concert. C'est vrai que ça ne tient plus. Et nous devons lutter contre tout cela en faisant différemment.
Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain.
Voilà. Bien-aimé, Ça, c'est une règle très importante. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien-aimé, quand tu es en train de bâtir, ne fais pas de bruit. Travaille. Les gens vont dire c'est zéro. Travaille. Les gens vont féliciter. Toi, travaille. Le début et le milieu, c'est pas grand-chose. Ça peut être, nous le voyons dans certains matchs, ça peut être extraordinaire ton début. Mais c'est la fin qui compte. Ce n'est pas le début. La fin parlera d'elle-même. Un humain n'a pas besoin de parler lorsqu'il a bâti une belle œuvre. Cette œuvre-là parlera. Qui n'est pas admiratif d'une voiture très très belle? Qui n'est pas admiratif? La personne qui a fait la voiture n'a pas besoin de faire la publicité de sa voiture. Sa voiture, elle-même, elle parle. Donc, mieux vaut la fin d'une chose. Donc, le résultat parlera de lui-même. Nous devons arrêter de chercher toujours à nous défendre, à expliquer aux gens que nous sommes bons, à expliquer aux gens que nous sommes corrects, nous sommes dans la vérité, nous faisons bien. Non, il faut travailler. Le travail, quand il arrivera à son aboutissement, il parlera en ta faveur. Le roi David l'a dit, quand tu as des enfants, ben, si tu les as bien éduqués, ben, le jour où l'ennemi viendra à la porte, il les trouvera. Ce sont ces enfants-là qui montreront quel père tu as été. C'est cela. Nous, oui ?
Il y a l'internaute qui demande si on peut expliquer le verset 7. L'oppression rend insensé le sage. L'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur.
Les présents corrompent le cœur. Là, nous savons que les cadeaux, les cadeaux, ça peut. Souvent, ça corrompt à tel point que dans Exode 23, Dieu avait dit aux sacrificateurs de ne pas les accepter. Et l'oppression rend insensé le sage, c'est que beaucoup de gens, face à l'oppression, ils perdent leur sagesse. Soit ils cherchent à se défendre. D'ailleurs, la suite nous le dira, le verset 9, ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter. L'irritation va te faire perdre la sagesse. Tu vas vouloir te défendre. Tu vas vouloir contre-attaquer sur l'autre. Et en contre-attaquant, tu vas dire des choses déplacées qui vont te mettre en tort. Voilà. Face à la pression, même des sages deviennent insensés. Donc, face à la pression, nous devons apprendre à être calme. C'est très important. Dès qu'il y a oppression, dès qu'il y a pression, première réaction, je ne dis rien. Je me tais. Je reste calme. Parce que la pression peut dérégler même un sage. C'est ça ce passage-là. Face à l'oppression, même le sage peut se comporter en insensé. Donc il faut être très très prudent. Oui.
Oui, pasteur, je suis désolé, je vais revenir un peu en arrière concernant la question sur de l'internaute pour les deuils. Si on va dans une famille qui ne manifeste pas la tristesse, pourquoi doit-on les obliger à être tristes alors qu'eux-mêmes sont heureux?
Nous ne parlons pas d'obliger de la tristesse, nous parlons de rester dans la réflexion, dans la sobriété, dans la simplicité. Nous ne disons pas que le deuil doit être triste. Nous disons que c'est le temps de réflexion, de méditation. Voilà, c'est pas. Donc, quand nous sommes dans ces circonstances, nous devons prêcher pour dire ben voilà, il est parti. Nous aussi, nous partirons. Nous devons dire la vérité. Voilà.
Verset 9. Ne te hâte pas. En ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sang des.
C'est ce que nous avons dit là. Donc, quand il y a irritation, souvent, nous produisons des choses insensées. Et non, il ne faut pas s'irriter. Il faut d'abord, la première réaction, c'est le calme. C'est très important. Nous continuons.
Ne dis pas, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci ? Car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent.
Voilà. Une parole pour montrer la grandeur de la sagesse. La sagesse, ça te permet de passer des barrières qui vont être fermées pour d'autres. Parce que tu as été sage, tu as su agir comme il faut, dire ce qu'il faut au moment qu'il faut. C'est ça la sagesse. Agir comme il faut, dire ce qu'il faut au moment qu'il faut. Le sage, c'est celui qui sait choisir, qui sait vivre ainsi. Et ça construit beaucoup plus que le fait d'être impulsif, vouloir se battre tout le temps. Voilà. La sagesse, c'est important. Et il est dit que ce n'est pas très sage de dire de préférer toujours le passé. C'est pas sage. C'est perdre la foi en Dieu, en quelque sorte, parce que Dieu est tout puissant pour faire des grandes choses dans l'avenir. Nous devons nous concentrer sur Dieu. Mais être figé sur les exploits de Dieu avec les humains dans le passé, c'est très dangereux. C'est se bloquer, s'arrêter, voilà, en quelque sorte. Donc, tu considères que le passé, c'est ça qui a été meilleur. Et donc, tu ne peux pas évoluer plus que cela. Or, Dieu veut nous amener de gloire en gloire. Verset 13.
Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé ? Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté.
Voilà, donc C'est une fois de plus une parole pour nous dire nous ne maîtrisons rien. Nous ne maîtrisons rien. Les malheurs et les bonheurs s'alternent sans que nous ne maîtrisions les choses. Une bonne nouvelle peut venir aujourd'hui et une mauvaise nouvelle demain. Personne ne maîtrise. Dieu dit, il dit, c'est permis par Dieu afin que personne ne puisse prédire l'avenir. Les choses s'alternent par sa puissance. Et ce que lui l'a courbé ne se redresse pas. Voilà. Les choses que Dieu a fixées, ça ne se redresse pas. C'est lui seul qui peut redresser les choses. Voilà. Et dans un autre passage, c'est écrit, on ne peut pas, toujours d'inclinance, l'arbre qui est courbé, quand un arbre est courbé, personne ne peut redresser ce tronc-là. C'est ça la réalité. Donc, soyons... très 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 prudent et confions-nous en Dieu puisque personne ne connaît son avenir. Et il dit, j'ai vu, verset 15, j'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice. Voilà, être juste n'est pas une garantie d'une longue vie ou bien de la richesse. Non, c'est juste une garantie d'être proche de Dieu. Et Dieu nous mènera selon sa volonté, mais dans le bonheur, mais sans forcément dire « je vivrai longtemps », sans forcément dire « je serai riche ». Mais tu es dans le bonheur, mais ta situation n'est pas fixée parce que tu es juste. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça nous garantit la présence de Dieu, sa faveur, mais ça ne nous garantit pas les situations. Parce que beaucoup se fâchent après, oui. Voilà, j'ai prié, j'ai bien fait le chemin, voilà ce qui m'arrive. Mais oui, mais être juste ne nous garantit pas les situations. Jésus était juste, mais s'est retrouvé à la croix. Les apôtres ont été persécutés, hein, ils se sont retrouvés en prison. Mais il y avait toujours la présence de Dieu, il y avait toujours la paix de Dieu, toujours la gloire de Dieu. Voilà. Mais les situations ne sont pas garanties. Donc il y a des justes qui meurent alors que des méchants vivent. Mais la Bible se complète, il y a des versets qui disent que Dieu ne veut pas la mort du méchant, afin qu'il se repente. Mais le juste, quand il meurt, lui, il va au ciel. Il est bien. C'est nous qui nous plaignons. Mais lui, là-bas, il dit, mais merci Seigneur de m'avoir sorti aussi vite. C'est ça aussi la réalité. Et nous continuons, verset 16.
Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps?
Ah, les gens peuvent dire, ah, mais comment ça? Ne sois pas juste à l'excès. Mais être juste, ben c'est bien. Mais qu'est-ce que notre bien-aimé veut dire par là, ne sois pas juste à l'excès? Ça veut dire que ne sois pas juste par toi-même, voulant te forcer à être juste en te mettant tel principe, tel autre principe, et encore un autre. Non, tu es en train de te détruire. Tu vas développer du complexe de supériorité sur les autres, par rapport aux autres. Tu vas développer de la condescendance, donc tu vas voir les autres en bas, toi en haut. Tu vas développer parfois même la jalousie dès que tu vas voir quelqu'un aussi qui paraît pur. Et ainsi de suite, tu vas te mettre dans une concurrence de pureté. Tu te détruis. Et deuxièmement, tu te détruis parce que tu vas te ramasser, mon ami, puisque nul ne peut tenir face à la tentation et au diable par ses propres efforts. Et du coup, quand tu vas te ramasser, tu vas condamner Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a poussé à te créer des éléments de propre justice. Voilà. Il faut faire attention à vouloir se construire sa propre justice. La justice vient, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui doit nous entraîner à la pureté, à la sainteté. Ce n'est pas à nous de construire. Le frère Paul en parle dans Colossiens 2. Peut-être c'est bien qu'on lise ça pour comprendre à peu près ce que Colossiens 2 à partir du verset 16. Pour comprendre la pensée de Salomon. À partir du verset 16, je crois.
Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, en vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne.
Voilà, ça ne sert qu'à satisfaire la chair, ne touche pas, ne mets pas, ne fais pas. Voilà, ça donne l'impression d'une forme d'humilité, d'amour pour Dieu, mais en réalité, c'est des constructions humaines. Il dit ceux qui sont en Christ, ils sont morts par rapport au monde. À moins qu'il ne soit pas en Christ. Quelqu'un qui est en Christ, le monde ne l'attire plus. Donc, il n'a pas besoin qu'on lui assène d'autres règles. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Voilà. Être juste à l'excès, se rajouter des règles pour se sentir juste. Non, Christ nous a déjà justifiés. Maintenant, si vraiment nous sommes morts au monde, les choses de la terre ne vont pas nous dire grand-chose. Voilà. Ça, nous serons distants de tout cela. Et si les gens doivent nous rappeler encore qu'il ne faut pas aimer le monde, ben, ça veut dire que, bon, quelque part, est-ce qu'on a vraiment, nous avons vraiment l'Esprit de Dieu, quoi. Voilà. Et normalement, l'Esprit de Dieu produira en nous la mort par rapport à ce monde. Nous allons juste utiliser les choses de la terre pour vivre ici-bas, mais non pas comme une forme de force ou de puissance. Voilà. C'est ça quand il est dit « Ne sois pas juste à l'excès et non, ne sois pas non plus méchant à l'excès ». Vous savez, il ne faut pas exagérer. Hein. Il y a des gens parfois qui... impoli à la maison, et puis un jour tu vas être impoli face au général d'état-major, au chef d'état-major, ça va pas être pareil. Hein. Tu vas être impoli face à un président de la République, ça va pas être pareil. Voilà. C'est, attention à exagérer dans la méchanceté. Mais bien sûr, nous donnerons plus de conseils à venir à la vérité. Mais nous parlons, c'est la sagesse, même à ceux qui ne sont pas encore brisés, il ne faut pas exagérer dans la bêtise, parce qu'il viendra un jour, tu feras une erreur fatale. Faire un accident à 150 km/h, c'est pas la même chose qu'à 90 km/h. À 200 km/h, c'est pas la même chose qu'à 110 km/h. Les dégâts sont multipliés par 5. Donc quand nous exagérons dans la méchanceté, nous allons faire des gaffes multipliées par 5 et les réprimandes peuvent être aussi multipliées. Je me souviens d'un bien-aimé qui a fait 30 ans de prison comme ça aux États-Unis. Bon, c'est le contexte américain. Où tu te bagarres à gauche, tu fais un casse à droite, tu voles à l'ouest, tu injuries à l'est. Et ben ça a été accumulé, les peines ont été accumulées, cumulées. Il s'est retrouvé à faire 30 ans de prison comme ça. Et c'est lui qui chante le chant Wasted Years, hein, les années perdues, Calvin Newton. Wasted Years. Les années perdues, voilà, 30 ans en prison, manque de contrôle, méchanceté à l'excès, attention, ça peut mal finir, il faut, même si en réalité nous voulons que tout le monde soit comme Jésus, bon, si ce n'est pas encore ton cas, essaye quand même de te tempérer le temps que tu te donnes à 100% au Seigneur. Oui ? Non, on continue ? Non, il y a une question, oui.
Oui, pasteur. Juste... un conseil par rapport à ne sois pas juste à l'excès. Dans l'assemblée, parfois, il y a des frères ou bien un pasteur, enfin un serviteur qui parfois peut être dur avec les membres, qui peut être dur avec, entre frères et sœurs, on peut être très dur dans les mots, dans les pensées, dans la façon de travailler, qui parfois ne se rendent pas compte qu'en fait, qu'ils sont dans l'excès. Alors, comment détecter qu'en fait, un serviteur, un frère ou une sœur entre dans l'excès ?
Non, moi j'ai déjà répondu à ce genre de questions. J'ai dit, nous, on n'a pas à réfléchir par rapport aux autres. Chacun doit réfléchir par rapport à lui-même. Voilà, parce que ce que l'un peut considérer comme excès venant de l'autre, peut-être juste que lui aussi ne veut pas accepter la réprimande du sage. Voilà, donc c'est... Chacun plutôt doit s'examiner, comme c'est écrit là, ne sois pas juste à l'excès, on nous parle à nous tous. Donc chacun doit s'examiner pour voir est-ce qu'il est dans la propre justice qui se construit ou bien celle de Dieu. Mais analyser les autres, non, on doit éviter.
Non, ce n'est pas une question d'analyse, c'est dans le sens où, parce que là, parce qu'on peut constater des choses parfois, Et tu peux aussi conseiller ton frère, ton pasteur, enfin n'importe quel frère dans l'assemblée, je parle. Là, c'est pas une question de regarder pour scruter. C'est le fait aussi de se dire, est-ce que là, je suis dans l'excès, par exemple, je travaille avec un collaborateur et puis le collaborateur ne fait pas bien les choses. Le fait de le réprimander à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, est-ce que c'est un excès aussi pour ce frère-là?
Mais c'est ce que je dis. Là, tu analyses celui qui réprimande. Or, moi, ce que je dis là, le texte nous parle à chacun. Que chacun puisse regarder à sa façon de faire, qu'il ne soit pas juste à l'excès. Ouais.
Comment on sait alors soi-même qu'on est juste à l'excès?
Ah, voilà. Donc, nous savons que nous commençons à être juste à l'excès lorsque, par exemple, on a fait une erreur, on a demandé pardon, mais on continue à se condamner. Alors, mais finalement, pourquoi Jésus est mort pour nous? Donc, Jésus, il est écrit... nos péchés, il les éloigne. Donc, si tu as été pardonné, vis. Il y a des gens qui continuent à être tristes hein, alors qu'ils ont demandé pardon à Dieu. Lorsque, par exemple, un frère aussi a demandé pardon et toi, tu continues à lui tenir rigueur de la chose. Donc, tu es juste à l'excès. Tu veux exagérer puisque Dieu lui a pardonné. Pourquoi toi, tu veux toujours garder voilà. Donc, c'est en comparaison avec ce que la parole dit. C'est comme ça qu'on sait qu'on est juste, on cherche à se faire juste à l'excès. On compare avec la Bible. Nous continuons.
Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres.
Voilà. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Donc Romains 3.10, c'est exactement Romains 3.10. Il n'y a pas de juste sur terre, même pas un seul. C'est pourquoi c'est un appel à l'indulgence envers la race humaine. Puisque il n'y a personne qui puisse dire qu'il a atteint le niveau de Jésus. Donc ça nous appelle à une forme d'indulgence, de recherche de construction plutôt que de maudire. Et c'est pourquoi, dans ce cadre-là, il dit, il faut faire attention à ne pas trop chercher à entendre tout ce que les gens disent. Tu risques de surprendre quelqu'un qui parle mal de toi et que ça te fasse mal, que tu sois blessé, que tu gardes rancune. Or, toi-même, combien de fois n'as-tu pas pensé du mal des autres dans le cœur, mais tu ne l'as pas sorti? Or, le fait que tu as entendu ne va pas avoir le même effet que si l'autre n'avait pas parlé ou que toi, tu n'avais pas entendu. Nous devons faire attention, bien-aimés, à chercher à savoir qu'est-ce qu'on a dit sur moi, qu'est-ce qu'on a... Parce que les humains sont faibles. Il n'y a pas de parfait, comme il s'est écrit. Un humain peut faire une erreur, peut être dans la colère et dire quelque chose de mauvais sur toi. Mais c'est la colère, c'est le fait que tu lui as privé de quelque chose, peut-être. Mais ce n'est peut-être pas ce qu'il pense au fond de lui. C'est juste la colère qui lui fait sortir cela. Mais le fait que toi, tes oreilles sont dirigées, antennes paraboliques, donc pour entendre tout, eh bien, tu vas entendre quelque chose qui va te dégoûter de quelqu'un. Et ce n'est pas bon, puisque toi aussi, parfois, tu penses du mal des autres. S'ils pouvaient entendre ce que tu pensais, est-ce que tu peux imaginer les conséquences? C'est pas parce que là, tu as surpris ce que quelqu'un a dit que tu dois le considérer comme vraiment mauvais, alors que toi, parfois, tu as eu des mauvaises pensées, mais tu ne les as pas dites. Donc, du coup, nul ne pouvait te juger en fonction de cela. Donc, ça nous appelle à l'indulgence et à ne pas chercher à trop savoir. Voilà. Rester toujours dans la présence de Dieu, dans la paix, Si Dieu veut amener une information, c'est à Dieu de l'amener. Ce n'est pas à nous de chercher à savoir, parce que nous pouvons entendre des choses qui peuvent nous dégoûter et nous faire du mal pour rien. Verset 23.
J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage. Et la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin, ce qui est excessivement profond, qui peut l'atteindre? Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la folie de, la méchanceté et la stupidité de la sottise.
Voilà, mais tout ça a été un échec. Lui-même le dit au verset 23, « Et la sagesse est restée loin de moi. » Il a voulu aller au-delà du don de sagesse que Dieu lui avait donné pour lui-même maîtriser les choses, maîtriser la sagesse jusqu'à ausculter, à scruter la folie, la bêtise. Donc, mais, voilà, c'est philosophe libre, quoi. J'essaie de voir, est-ce que c'est peut-être dans le cannabis que se trouve la sagesse? Est-ce que c'est peut-être dans le nombre de femmes que se trouve la sagesse? Donc, il a voulu tout savoir. Il a voulu tout savoir, mais finalement, la sagesse est restée loin de lui. Il n'a pas atteint le niveau de maîtrise qu'il fallait. C'est ce qu'il veut dire par la sagesse est restée loin. Ça veut dire qu'il n'a pas maîtrisé l'affaire. Lui, il a voulu maîtriser les choses, ça n'a pas marché. C'est le thème de ce livre, c'est que nul ne peut maîtriser les choses. Vanité des vanités. Ce n'est que poursuite du vent. T'as beau être le plus grand mathématicien du monde, mais il y a des sujets en maths que tu ne maîtrises pas. Le monde est infini dans tout. Que tu prennes la biologie, que tu prennes les maths, l'économie, tout ce que tu veux, tous les domaines n'ont pas de limite. Nous, on ne pouvait pas imaginer qu'on puisse produire des plantes sans qu'elles soient clouées à la terre. Aujourd'hui, il y a des plantes qu'on produit hors sol. Il n'y a pas de terre. Ça produit des tomates, ça produit des choses. Voilà. Tous les domaines sont infinis. Donc, chercher à maîtriser, le livre d'Ecclésiaste nous dit, ça sera couronné d'échecs. Lui-même, l'écrivain, a voulu maîtriser la sagesse. Il dit, c'est resté loin de lui. Il a touché à la sottise pour mieux comprendre les choses, mais rien n'y a fait. Il a échoué. Voilà. Verset 26.
Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les choses droit, mais ils ont cherché beaucoup de détours.
Les hommes, c'est que Dieu a fait... Voilà, c'est que Dieu a fait les hommes droit, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Voilà, bien-aimés, là c'est l'expérience de Salomon. Vous savez qu'il avait atteint combien de femmes ? 1000. Donc, c'est quelqu'un qui cherchait la femme parfaite, celle qui sera exactement comme lui il veut. Eh bien, ça n'a pas marché. Il a à chaque fois été déçu. Donc, il le dit, hein, il dit, voici ce que mon âme, voici ce que j'ai trouvé en examinant les choses. Je cherche encore, je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Donc, le mot 1000 est là. Quand nous lisons dans le livre de Rois, il avait atteint les 1000 aussi côté femme. Et finalement, il n'a jamais trouvé la femme qui serait exactement comme lui le veut. Ça n'a pas marché. C'est une vanité de vouloir maîtriser. Il a voulu maîtriser la relation homme-femme. Ça n'a pas marché jusqu'à atteindre 1000. Mais dans ses relations avec les hommes, il lui est arrivé de trouver une ou deux personnes qui correspondent à ce qu'il attendait vraiment. Oui, question ?
Peut-on expliquer le verset, peut-on expliquer le verset 26 ? C'est un internaute qui demande, peut-on expliquer...
Oui, mais nous avons souvent parlé de ça. J'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet. Donc, c'est une femme qui va te faire souffrir pendant longtemps, de sorte que la mort même te sera préférable, comme certains qui traînent pour revenir chez eux. Donc, ils préfèrent rester au boulot, puis traîner quelque part, visiter sa maman sur le chemin de la maison... Et puis, il arrive rapidement, puisque dès qu'il va mettre les pieds, c'est la querelle qui commence, c'est les discussions, c'est les réponses. Et ça peut être très, très embêtant, ça peut être très, très lourd, l'atmosphère, et à tel point que certains en sont devenus presque SDF, ne voulant pas rentrer chez eux. Oui, ça peut être très lourd.
Bon, et il y a une dernière question qui est hors sujet. Je poserai à la fin quand tu auras fini.
Oui, mais nous avons fini. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Les choses sont simples. C'est les hommes qui compliquent. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les hommes qui compliquent. Les choses en soi, elles sont simples. On te fait le mal, pardonne. Il y a un problème, prie. Mais c'est les hommes qui se compliquent. Ils vont commencer à méditer, réfléchir, jouer à l'espion. Non, les choses sont simples, mais c'est les hommes qui compliquent. Quand nous sommes compliqués, les choses seront aussi compliquées pour nous. Lorsque nous sommes simples, tout sera aussi simple pour nous. C'est ça la leçon. Voilà, que Dieu nous aide à être simples. Oui ?
Il y a une question qui vient d'arriver que je vais poser avant la question hors sujet. Est-ce que Dieu a prévu une femme pour un homme ou vice-versa comme prédestiné?
Je préfère pas, donner une réponse sachant que le verset biblique, il n'y a pas de verset biblique clair qui répond à une telle question. Ce qui est écrit, c'est que quand Adam était seul, Dieu a dit qu'il ne fallait pas qu'il soit seul, il faut qu'il lui trouve une aide semblable. Comme pour tout le reste, je pense que Dieu a en vue quelqu'un pour l'un et pour l'autre, et c'est ce que nous devons chercher, la volonté de Dieu dans ce que nous voulons bâtir comme famille. Voilà. Je préfère rester dans le cadre de ce qui est dit.
Donc la question hors sujet, c'était... Que penser de la médecine par les plantes? Peut-on se soigner ainsi ou se méfier des dérives? Où doivent être nos limites?
Non, mais les limites, c'est la compréhension des choses. Quand nous voyons bien que ce qui est fait est scientifique, parce que quand on dit les plantes, ça ne veut pas dire que ce n'est pas scientifique. Voilà, parce que les gens pensent que si aujourd'hui je coupe les feuilles dans mon jardin, je fais une tisane, c'est les plantes. Donc ce n'est pas hors science. Quand est-ce que ça devient hors science? Lorsque on prête aux objets qu'on utilise des pouvoirs. Alors que empiriquement, scientifiquement, ce n'est pas justifié. Comme l'homéopathie, par exemple, ce n'est pas scientifique. C'est de la magie déguisée, puisque on prête à une infime partie d'une matière qui n'existe pratiquement pas. C'est comme si vous prenez un morceau de sucre, vous jetez dans un lac, vous prétendez que cette eau-là sera sucrée, donc aura un effet sucrant dans quelque chose. Non, c'est ça l'homéopathie. Donc, on prend une infime partie de la molécule active qui est diluée dans beaucoup, beaucoup d'eau, beaucoup de liquide, et on prétend par succussion, enfin, en bougeant, en faisant certaines pratiques qu'on appelle dynamisation, on prétend que ça peut avoir le pouvoir de guérir. C'est carrément faux. C'est carrément faux scientifiquement. Ça ne s'explique pas. Le meilleur exemple pour que tout le monde comprenne, c'est comme si vous disiez qu'un morceau de sucre dans un lac peut avoir un effet sucrant d'une manière ou d'une autre. C'est faux, c'est impossible. C'est ça l'homéopathie. Donc quand ça commence à se mélanger à des pouvoirs, à des choses qui sont parfois aussi spirituelles, du genre ça apaise l'âme, ça enlève le stress, des choses comme ça, alors que le stress vient d'un problème de l'âme, il faut faire très attention. Donc c'est à nous d'examiner. Quand on commence à mêler ça à l'homéopathie, mêler ça à des pratiques de certaines tribus d'Amérique, ainsi de suite, faire attention. Ou à des divinités païennes, il faut faire attention, il faut refuser. Mais le meilleur moyen d'utiliser les plantes, c'est les plantes qui sont vendues comme plantes et dont nous, on sait les vertus. Si, par exemple, tu achètes du thym, voilà, tu fais de la tisane de thym, c'est vendu comme thym, c'est toi qui en connais les vertus et que tu boives pour te calmer de la toux, du rhume. Voilà, c'est à nous de gérer ça, quoi. C'est la meilleure façon. Gérer par soi-même et non pas laisser un mouvement nous gérer par rapport à cela. Voilà, nous allons prier que Dieu nous aide à mettre en pratique les enseignements que nous avons reçus à travers Ecclésiaste. Prions le Seigneur. Éternel, merci de nous apprendre à être humbles, à ne pas penser maîtriser la sagesse, à nous laisser être inspirés à chaque fois par toi, à ne pas vouloir être juste à l'excès, croyant que nous serons sauvés par les œuvres ou bien par une affectation de comportement puritaine, Seigneur. Nous voulons rester simples, être sauvés par grâce, marcher par l'Esprit Saint à tous les niveaux. Seigneur, nous voulons rester dans la méditation, dans les moments de chagrin, dans la méditation concernant l'avenir au ciel, méditation concernant la vanité des choses sur la terre, Seigneur, et ne pas chercher non plus la femme parfaite selon notre logique, parce que c'est la suite, c'est beaucoup de déceptions et de querelles, de disputes, que nous puissions nous contenter de la femme que tu nous as donnée. Nous nous attendons à toi pour tout, à toi la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen.